Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé suffit.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les...
Non.
Mais que diable est différent dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de juillet de Scène de vie, Vie de scène, l'émission qui prend son temps, une coproduction, Principe Actif et Le Tangramme. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Voilà, cette année nous aurons 11 numéros à notre saison, c'est pas une bonne nouvelle ça? Les vacances scolaires arrivant plus tardivement, ça nous fait 11 numéros cette année.
On n'a plus envie de se quitter en fait.
Bah tout à fait, puis on vous a concocté un numéro quand même assez particulier dans le thème des vacances pour le coup.
Oui, on s'est dit que voilà, on allait faire une vraie fausse rediffusion.
C'est bien ça, dit comme ça.
C'est toujours un peu le moment des bilans avant de partir en vacances et nous on n'y a pas coupé cette année avec l'envie de remettre un petit coup de projecteur sur des moments qu'on avait partagés ensemble tout au long de la saison. Mais bien sûr, comme d'habitude, c'était vraiment exhaustif, hein, subjectif, pardon, à chaque fois je me trompe, mais c'était vraiment subjectif et puis on n'a qu'une petite heure à passer ensemble, sinon évidemment on en aurait profité pour revenir sur d'autres moments.
Exactement, donc on se donne quand même le sommaire de cette émission, qui fera le tour de particuliers bons moments cette année. Nous parlerons théâtre.
Épopée théâtrale, oui. On a voulu vous repasser l'échange que nous avions eu avec Simon Falguière et Christian Mousseau-Fernandez dans notre émission du mois de mars 2019, où il y avait eu vraiment tout un week-end sur les écritures épopées théâtrales. Et voilà, c'était un moment assez dense, intense, sur la création auteur pour le plateau. Et voilà, donc avec Simon Falguière aussi, un clin d'œil à cet auteur, metteur en scène et comédien qui a une actualité même estivale.
Nous parlerons Usine de Navarre également.
On retrouvera donc Frédéric Grimaud, le photographe hébroïcien, qui nous présentait son exposition qui continue toujours à Navarre.
Vestiges d'une époque révolue, le nom de l'exposition. Nous irons faire aussi un tour du côté de Saint-André-de-l'Eure.
Oui, alors là, ça nous ramène en début d'année, en février, où nous étions bien en direct, parce que Scène de vie, Vie de scène, c'est aussi parfois de l'émission en extérieur. Et là, nous étions à la médiathèque de Saint-André-de-l'Eure et on a choisi notamment l'échange que nous avions eu avec l'association des... Livre.
Des amis de la bibliothèque,
voilà, qui était un groupe bien sympathique avec un projet intéressant.
Nous tenterons de vous faire un agenda peut-être bien à la fin de l'émission et nous terminerons par la traditionnelle, l'extrait de film. Mais tout de suite, sans plus attendre, nous vous proposons un son d'ambiance. Alors cette fois-ci, il est quand même monté, on va pas se mentir.
J'étais sage comme une image et dissipée comme une poupée. Voilà.
Qu'est-ce que t'as fait quand t'étais petite comme bêtise?
J'ai tellement fait de bêtises. Je m'en rappelle plus, mon pauvre lapin.
Comme bêtise quand vous étiez petit?
Comme toi, je vais faire comme toi. Alors qu'est-ce que tu fais comme bêtise?
Des bêtises
bêtises.
Ah, des bêtises quand j'étais petite. Oh. Je montais dans les arbres. On m'appelait le commenqué, moi.
Et à monter dans les arbres, bon.
C'est beaucoup, tu sais.
Tu peux nous le dire?
Quand j'étais petite, je voulais souvent grimper aux arbres.
Ok, quoi?
Bah, je montais dans les arbres pour me casser.
C'est vraiment
ça. J'ai cassé le maquillage à ma mère.
Waouh! Bon!
Ouais, une très bêtise!
Des bêtises, je ne le forfais.
Oh, oh, bah dommage.
Je n'aimais pas la soupe et je mettais tous les poireaux sur le bord de l'assiette. Et quand mon père rentrait, il remettait tous les poireaux et il fallait que je mange tout.
J'ai jamais fait de bêtises, moi. Jamais.
Moi, c'est vrai.
Aimant. Aimant.
T'as menti, c'est bien. Ta première bêtise que je connais.
J'ai jeté le cartable de mon frère dans la rivière.
Elle a jeté le cartable à son frère dans la rivière, elle.
Quelle est la pire bêtise que vous avez faite quand vous étiez petite?
Je sais pas si c'est la pire, mais c'était marrant. Quand j'étais petite, il fallait que je me cache. Alors j'allais dans le poulailler de chez les sœurs. Et puis je me cachais dans les cages à lapins. Puis les sœurs, elles me cavalaient après, ça me pensait que j'étais. Alors, quand elles arrivaient à me sortir de là, non, je me tente de reconnaître ses fessées. C'est pas bien grave quand même.
Alors j'y sais, je crois que ce petit son nous dit quelque chose.
Alors ce petit son nous dit quelque chose, effectivement on avait diffusé un extrait très court de 30-40 secondes au mois de février, je crois, c'était issu d'un travail que nous faisions avec le centre de loisirs de Claville, et puis suite à ça nous sommes passés au montage justement avec la petite musique de fond, avec le choix de quel morceau on enlevait, quel morceau on laissait, on a fait ça avec les enfants, et donc ça donne, il y a une partie qui donne ce résultat là qui est plutôt sympa quand même. Mmh. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil sur le travail en cours, on l'avait écouté de manière brute au mois de février, je crois, de mémoire. Et puis bah là, c'est la version montée avec les enfants du centre de loisirs de Claville. Voilà, il y a une émission également complète tournée autour de ça. Voilà.
Qu'on peut retrouver sur
les podcasts, bien entendu.
Bien sûr. Et nous, on n'a pas fait de bêtises.
Ouais, c'est ça. On va vous passer à la question. À la question par les enfants. Vous verrez que vous en avouerez, c'est certain. Parce qu'ils lâchaient pas l'affaire. Hein.
Oui, même surpris. C'est rigolo, les réactions quand les bêtises sont racontées. Voilà, les réactions des enfants. Oh là là, t'as fait vraiment une grosse bêtise, là, quand même.
C'est ça. On n'a pas enregistré celle des enfants parce qu'il n'y a pas encore prescription.
C'est ça.
Donc voilà, on enregistre quand il y aura prescription. On s'écoute un peu de musique?
Allez, on y va.
Matuya sobo makati ya kongo.
abarikani na uye fosi dunte bendumbo musonga kinyongo fe. Les femmes ne veulent plus subir, il suffirait de nous unir, luttons pour notre avenir, il est temps d'agir.
Plus jamais, oui, le silence.
Amazon Power par les Amazones d'Afrique que nous retrouverons au Tangram, au Cube très exactement, le 31 janvier à l'occasion de la fête de la soupe.
Ah ouais, d'accord, on programme déjà...
Ouais, fête de la soupe 2020.
On check déjà de l'agenda du mois de janvier. Voilà. Hein.
Ah ouais, je vois ça, on rigole pas en fait dans les prévisions.
Non.
Très bien.
Tout est pensé.
Nous vous le disions en début d'émission, nous avons eu des rencontres durant cette année, notamment Christian Mousseau-Fernandez qui dirigeait le Tangram jusqu'au mois d'avril, hein, je crois.
C'est ça, fin mars.
Jusqu'à fin mars. Et puis nous l'avions rencontré à l'occasion des épopées théâtrales où deux pièces se jouaient particulières. Je vous propose tout de suite que nous l'écoutions. Et puis nous avions commencé d'entrée à lui demander, mais à quoi servait un directeur de théâtre?
Ça sert à faire des bêtises.
Mais des bêtises réfléchies ou pas réfléchies?
Oh, les bêtises, souvent, elles sont les deux à la fois. Non, mais plus sérieusement, j'aime pas trop, de toute façon, répondre à la question de l'utilité ou pas. Je sais pas, c'est comme si je devais répondre à quoi sert l'art. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question là maintenant. Je pense que, en tout cas, ce que doit essayer de faire un directeur d'un théâtre, je pense, c'est d'être à l'écoute de beaucoup de choses. Et sans doute la première des choses, c'est d'être à l'écoute des artistes, justement, pour faire la liaison avec les discussions qu'on va avoir après. Les artistes, l'état de la création artistique, sur notre territoire, alors en proximité ou à l'échelle nationale voire internationale, et puis c'est être à l'écoute d'un territoire local et notamment de toutes celles et ceux qui y vivent ou qui le font vivre. On est à la croisée de ces deux choses-là, en fait. Et s'il y a une utilité, enfin, à la fonction de directeur, c'est de veiller à ce que on soit sans cesse oreilles, avec des oreilles grandes ouvertes. Quand je dis on, c'est toute l'équipe, évidemment, du Tangram, pour ce qui me concerne, et pour être à la fois en sans doute au maximum en phase avec ce qui se joue, ce qui se pense et ce qui s'agit au sens de l'action du terme, à la fois côté territorial mais aussi côté artistique et culturel.
En tant que directeur, on vient avec quelle idée de et comment on va faire comment va s'opérer cette rencontre là? On a quand même des choses en tête.
Oui, c'est vrai. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent des choses qui maturent dans nos têtes de façon très parfois un peu inattendue et parfois de façon hyper réfléchie et très très volontariste. Ce que je veux dire par là, c'est que faut accepter d'être je pense côté artistique par exemple d'être extrêmement ouvert et prêt à être bousculé par ce qu'on découvre, mais ça vous savez on tout programmateur et en ce qu'on appelle en repérage artistique très 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 en amont et moi je me surprends toujours à penser que j'ai oublié les trois quarts des spectacles que j'ai vus, sachant qu'on en voit à peu près une centaine par an. Et puis en fait non, il y a des moments, il y a des connexions qui se font. Alors ces connexions là elles s'opèrent à des moments où effectivement on a une volonté. Nous, quand je dis nous, c'est le programmateur, mais aussi au regard des retours de l'équipe, etc. Et c'est vrai que si je prends l'exemple par exemple des épopées théâtrales telles que j'ai souhaité qu'elles soient mises en place sur une même semaine, je découvre tous ces oiseaux il y a un an et demi maintenant. C'est un vrai coup de cœur. Bon, voilà. Même si je sens que ça nécessite une exigence de la part du spectateur, etc. Mais bref, en tout cas sur le contenu, ça rejoint en tout cas des préoccupations qui sont les miennes sur un regard sur le monde, mais aussi sur une approche du théâtre qui me corresponde, où je sens que je vais être très très vite en capacité de pouvoir défendre ça de façon très forte. Et puis depuis bien avant, 2 ans avant, j'ai une première rencontre avec un certain Simon Falguière qui vient me présenter un truc de dingue avec une demande de passer 10 heures de mon temps à lire un pavé énorme et puis il y a une rencontre qui se fait à ce moment-là. Je sais pas du tout ce qui va se passer après. Je lis le document, etc. Je décide d'accompagner Simon, mais je ne sais pas du tout à ce moment-là que il y a une connexion qui va se faire entre deux propositions artistiques, l'une Tous des oiseaux dont je viens de parler et Nitsand qui est la création de Simon qui va être présentée au moment de ces épopées là. Je sais pas ça. Et l'année dernière, à un moment donné, au moment où se pose la question vraiment de la question de la programmation, etc., la connexion se fait. Elle se fait dans ma tête. J'échange aussi avec Simon sur cette question-là parce que faut quand même reconnaître que ces 3 rendez-vous théâtraux sur la semaine sur des jauges très importantes, c'est pas rien. Ça va faire événement sur la ville, ça doit le faire, etc. Et il faut aussi avoir là aussi ouvrir un peu les écoutilles au-delà des convictions fortes qu'on peut avoir et d'échanger. Et c'est comme ça que les choses se croisent. Et finalement, encore une fois, toi, c'est 3 ans en arrière pour l'un et 1 an et demi pour l'autre.
Voilà, c'était un extrait hein, seulement de l'échange avec Christian Mousseau-Fernandez. Nous avions, alors on vous l'avait dit, nous avions également Simon Falguière qui était avec nous et qui faisait écho à ce que Christian nous racontait, enfin nous disait, et plus spécifiquement sur eh bien la place d'un théâtre et la place de cette direction justement.
C'est toujours très heureux de découvrir l'audace d'un directeur, puisque présenter deux spectacles de cette envergure-là, de cette durée-là, sur une même semaine, c'est une audace, déjà. J'avais fait une création aussi ici, la saison dernière, autour du Petit Poussé, et Christian avait programmé trois Petits Poussés, c'était une audace aussi. Et ce sont des choses assez rares et très... voilà, déjà, il y a cette joie-là, de participer à une audace. Et ensuite, et aussi par rapport, pour rebondir sur ce que disait Christian, je crois qu'il y a une chose où on se retrouve, où Wajdi et moi-même, je dis Wajdi parce qu'on on se connaît un petit peu, c'est que nous racontons tous les deux des histoires. Et je crois que ça, c'est la première chose très importante. C'est-à-dire que on a le souhait, l'un et l'autre, de ramener la fable et l'histoire au cœur du théâtre. Ce qui n'a pas été toujours le cas. Et on dit même que c'est la chose, peut-être la chose essentielle, et que c'est aussi cela qui permettra une forme de communion avec avec le public, de ramener l'histoire au cœur. Moi, c'est d'autant plus émouvant pour moi. Il y a beaucoup de choses émouvantes pour moi avec cette date à Évreux, puisque je...
Vous pouvez, oui, on peut le dire. Hein,
voilà, je suis né à Évreux. J'ai grandi dans ce théâtre d'Évreux toute mon enfance, et je reviens avec un spectacle de cette envergure-là. Donc, c'est très bouleversant, on peut dire le mot. Et il y a une deuxième chose qui me bouleverse, c'est que Wajdi Mouawad, quand je suis allé à Paris pour faire mes études théâtrales avec mes 18 ans sur l'épaule, Wajdi Mouawad, je le découvre au Théâtre Malakoff, Théâtre 71, et on le découvrait tous, et il montait sa trilogie Littoral, Incendie et Forêt. Et il ramenait justement dans le paysage théâtral l'histoire au cœur. Et les salles étaient remplies de jeunes, dont je faisais partie, et nous finissions tous debout à la fin des représentations, donc ça a été un choc de spectateurs pour moi, et qui m'a d'ailleurs très certainement influencé à des endroits d'auteurs et de metteurs en scène, du moins, et toute une génération, je pense, dans cette volonté de réécrire des histoires. Et voilà, je crois, voilà, tout ce que ça m'inspire, cette réunion en une semaine de Wajdi Mouawad et de mon travail, même si après, évidemment, il y a des différences, et heureusement. Il y a une autre petite chose qui est touchante dans le rapprochement de ces deux œuvres, c'est qu'il y a une personne qui a travaillé sur ces deux spectacles. C'est Emmanuel Clolus, qui est scénographe et qui a fait la scénographie du spectacle de Wajdi. D'ailleurs, c'est amusant parce que on s'était retrouvés par hasard, Christian, tous les deux à la représentation de Tous des oiseaux. Par hasard, on était assis.
Des connexions là.
Des connexions.
Il n'y a pas de hasard.
Et je découvre le travail de Clolus à ce moment-là, enfin voilà, et il a fait les deux scénographies des deux spectacles. Donc en plus, on peut même venir voir comment un scénographe travaille avec deux artistes différents sur deux thèmes différents.
Justement, le nid de cendre, c'est aussi toute une, enfin c'est beaucoup de comédiens sur le plateau. C'est une quinzaine, ouais, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une œuvre un peu folle.
C'est ça que je voulais souligner. Vous parliez l'audace du programmateur tout à l'heure, mais il y a aussi l'audace du metteur en scène,
bien sûr,
à proposer quand même un format long, vous l'avez souligné, 5 heures de représentation, mais aussi 15 comédiens sur le plateau. C'est loin d'être anodin quand on connaît en plus la réalité aujourd'hui de pouvoir produire un spectacle et les coupes s'engendrent, enfin, toutes ces logistiques qui sont derrière. C'est aussi une audace au bout d'un moment de mettre 15 comédiens sur le plateau. Sur ce type de représentation.
Oui, mais alors c'est toujours pareil. L'audace du metteur en scène ne peut pas exister sans l'audace du directeur, et l'audace du directeur ne peut pas exister sans l'audace du metteur en scène. C'est-à-dire
c'est
que
la poule qui fait.
Voilà. Ouais, enfin, il faut qu'elle se rencontre. Hein.
Il faut qu'elle se rencontre. Mais c'est là où Christian pour moi a été très important. Après j'arrête, hein, Christian, promis. Hein. Mais Christian était très important puisque c'est le premier directeur qui a lu la pièce. Et il faut à l'époque fallait. C'est-à-dire que j'arrive avec 400 pages de texte et je ne pense pas du tout qu'un directeur va me rappeler en me disant je les ai lus. et ça a été le cas et c'était la première étincelle qui a permis que cette production existe. Alors en effet, c'est une production hors norme d'un point de vue des chiffres et puis aussi de ma jeunesse puisque je viens d'avoir 30 ans. Donc réunir tant de partenaires autour de ce spectacle-là, c'était, pour être très franc, il y a encore 2 ans, je pensais que je n'y arriverais pas. Et il y a 16 comédiens au plateau, nous sommes 24 en tournée. Au sommet de la création, nous étions une quarantaine dans le théâtre. Ça dure 5 heures, 2 parties de 2h30. Et il a fallu convaincre tout un petit monde pour pouvoir faire en sorte que cette aventure existe. Après, je pense que les gens aussi ont faim d'aventure.
Et d'histoire.
Et d'histoire. Donc oui, c'est une audace. Et c'est une audace qui est née de la rencontre d'une jeune troupe d'acteurs exceptionnels qui sont rentrés pour la plupart en école nationale, au Conservatoire National de Paris, au Théâtre National de Toulouse et à l'École du Nord à Lille. Je dis ça parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que je n'aurais jamais pu écrire cette pièce sans eux.
Oui, c'est ça. Il y a une notion, évidemment, quand on écrit une pièce à 16 comédiens, il y a quand même un aller-retour qui doit se faire forcément par rapport à la troupe, j'imagine.
Bien sûr. Et je crois que, moi je dis souvent ça, je crois que la transcendance existe parce que les autres sont là. On n'écrit pas une épopée théâtrale tout seul dans sa chambre. Enfin, si, au final, on l'écrit tout seul dans sa chambre. Mais ça n'empêche que elle peut prendre corps. C'est très mystérieux. Là, je vous parle de quelque chose de très mystérieux. Mais elle peut prendre corps que parce que les acteurs sont là dans notre tête, ou du moins, ce que je veux dire par là, c'est que chaque page écrite d'une cendre, je m'y attelais en me disant ils vont la lire. Donc, c'est une histoire d'amour. Voilà. Et chaque page est écrite en se disant ils vont la lire. J'espère que ça va leur plaire. Mais c'est vrai. Et aussi, chaque parole, chaque rôle est écrit avec la voix de l'acteur dans l'oreille. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui écrit au plateau. Je ne fais pas d'écriture de plateau, ce que fait Wajdi, à l'inverse. Moi, j'écris avant tout.
Pas sur tous les oiseaux. Hein. Sur tous les oiseaux, il a écrit avant.
Oui, il a écrit avant, mais après j'en ai quand même rediscuté avec lui et il a beaucoup, beaucoup retouché. Après, moi, j'ai beaucoup coupé, par contre. Ouais. Mais...
c'est une forme de retouche.
Ce qui est une forme de retouche, parfois très douloureuse, mais essentielle. Et donc je l'écris voilà avec la voix des acteurs et puis comme je suis acteur moi-même, j'ai un rapport à l'écriture qui est un rapport oral, c'est-à-dire que j'écris tout le temps à voix haute. J'ai besoin que les mots passent par la bouche pour qu'ensuite ils puissent être donnés aux acteurs. J'ai l'impression plus d'être un auteur poète chef de troupe qu'un metteur en scène. Je sais pas comment expliquer ça, mais d'être vraiment un acteur parmi d'autres acteurs qui va écrire pour d'autres acteurs pour que l'histoire existe.
Lysistrata, pantalon, pantacourt. Lysistrata qu'on retrouvera également au Tangram le 12 décembre prochain.
Et puis, en mai dernier, il n'y a pas si longtemps, nous accueillions Frédéric Grimaud, photographe, qui a maintenant sa renommée localement et même nationalement, où il a mené un travail assez particulier et en lien avec le territoire d'Évreux, puisqu'il s'est attaché aux usines de Navarre avec cette exposition que nous pouvons encore voir, jusqu'en juillet dans la galerie de la place de Navarre. Et bien voilà, on interrogeait Frédéric qui est un Ébrouissien sur son lien aux usines depuis son enfance. Donc voilà, c'était le point de départ pour arriver à son travail artistique et photographique sur ce lieu assez emblématique du quartier.
Alors moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était enfant, parce que j'ai vécu dans le quartier de Navarre dès mes un an et demi, parce que mon père travaillait à l'hôpital psychiatrique, il était chef du personnel, donc forcément j'ai traîné un petit peu par là-bas, et c'était très très mystérieux, parce que voilà, c'est les usines. C'est fait de briques, de bois, de métal, avec des bruits. Donc on ne sait pas trop ce qui s'y passe derrière quand on est enfant. Donc voilà ma première rencontre avec les usines.
Et donc là, c'est un regard d'enfant à ce moment-là que vous posez avec tout un tas avec l'imaginaire qui va avec, quoi, j'imagine.
Ouais, on ne se pose pas trop de questions, en fait. On passe devant, on sait qu'il y a ça, mais...
C'est dans le paysage.
Voilà, en tant qu'enfant, on ne va pas plus loin. Par contre, après moi je les ai redécouvertes bien plus tard quand elles ont été fermées en 2004.
Et alors là, cette deuxième rencontre. Oui, pardon, on a tous une question.
Ouais, c'est pour ça que je fais un blanc.
Alors,
à gauche, à droite, en face.
Fait, on a habituellement une chorégraphie entre animateurs, mais on se repère.
Ouais. Alors, allez-y.
Je sais pas, la deuxième rencontre, c'était...
Voilà. Ah oui, d'accord. Donc voilà, en 2004-2005. En fait, j'ai été contacté vers début 2005 ou fin 2004, je sais plus bien, par La Boucle, pour faire donc un artiste peintre graffeur-peintre plutôt, maintenant. Et donc on a sorti un livre, La mauvaise herbe urbaine, en 2006. Et donc moi j'ai fait des photos de friches, d'usines, pour qu'on fasse le livre ensemble sur ces deux thématiques, graphes et photos de friches. Et donc je me suis rendu dans ces usines en 2005. Donc j'ai pris beaucoup de photos, dont une bonne série en argentique avec mon Rolleiflex flex format carré. Et donc à partir de là, j'en ai mis un petit peu dans le livre, mais pas beaucoup. Et puis j'avais l'envie de faire quelque chose avec cette thématique très ciblée des usines de Navarre, sans jamais savoir quoi faire. Et puis paf, c'est là, c'est maintenant en 2019.
Elles vous ont finalement toujours accompagné, ces usines de Navarre, en fait. Vous avez toujours eu une relation.
Oui.
Ça commence petit, vous les avez vus fonctionner, puis fermer, puis la possibilité de revenir dessus à l'occasion d'une rencontre avec La Boucle. Ouais. Elles ont toujours été à côté de vous, finalement.
Oui, et oui, d'autant que j'y suis allé on va dire en 2005, et puis jusqu'en 2019, jusqu'à aujourd'hui, même hier, enfin bref, j'y suis allé, oui, des dizaines et des vingtaines de fois.
Est-ce que quand du coup on ressort ces premiers clichés d'il y a 10 ans, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça fait remonter des souvenirs, j'imagine, mais est-ce qu'on porte le même regard?
Alors moi, quand je vois les anciens clichés comme les nouveaux, mais plutôt les anciens, parce que bon, c'est une usine qui a bougé, il y a des gens qui viennent, il y a eu des destructions. Quand je vois mes premières photos, je ressens en fait l'odeur. C'est plus une sensation sensorielle, olfactive, que visuelle, en fait. Voilà, parce que les usines, c'est très, il y a de l'huile, il y a de la poussière, il y a tout un tas de déchets en fait qui sentent très fort. Et en fait, moi, j'ai eu l'occasion donc pour cette expo de nettoyer divers objets. J'ai malheureusement pas porté de masque, mais j'en ai pris plein les poumons, je pense.
Oui, parce que c'est une usine quand même où on brassait beaucoup d'éléments lourds. Alors, et de métaux, ouais, lourds. Voilà.
Donc c'est
extrêmement pollué aujourd'hui.
Voilà, oui. C'est une fonderie. Ça a commencé comme quincaillerie. Après, ils ont fait de l'acier pour se spécialiser dans une fonderie de laiton et de cuivre. Donc avec création de, enfin, production en 1860 de dés à coudre. Après, lampe pigeon, lampe abeille, réchaud, gonde porte, obus aussi pour la guerre. Une plus grosse activité des usines pendant la guerre d'ailleurs. Et puis divers objets comme des morceaux de parapluie, etc.
Du coup, dans la façon dont vous le racontez, il y a un côté un peu humain, enfin vivant, oui, en tout cas de cette usine. Et j'imagine que quand on va y faire des clichés, qu'on soit seul ou pas, de toute façon, il y a un dialogue qui se met en place avec, enfin un dialogue, peut-être pas un dialogue, mais on se raconte des choses avec ces usines. Qu'est-ce qu'on se raconte quand on est Frédéric Grimaud dans cette usine?
Je cherche des traces. Et puis c'est vrai que je suis tombé sur des photos de l'inventaire du patrimoine aussi de Rouen, qui m'a gracieusement prêté ces images pour une autre production là, un montage vidéo et sonore que je fais. Alors on s'imagine que là il y avait la grosse presse de je sais plus de 17 tonnes avec des ouvriers qui travaillaient jour et nuit avec ces bruits, ces odeurs, ces accidents aussi. Et on se dit, maintenant il y a plus rien. Et en fait, c'est vraiment un hommage que je rends, parce que j'ai interviewé là dernièrement des anciens ouvriers, l'ancien directeur. Je refais d'ailleurs ma dernière interview cet après-midi avec Monsieur Valette aux ventes, qui a travaillé 20 ans là-bas, qui a eu ses vêtements collés à cause de brûlures. Voilà, c'est vraiment une mémoire et un héritage, et tout ce qui est il y a de l'architecture Eiffel aussi à l'intérieur, donc c'est très riche comme passé.
Et donc cette exposition qui a lieu samedi dans 10 jours, samedi 18, c'est aussi une trace, une commande qui vous a été faite, une invitation à rendre trace de la mémoire aussi du quartier de Navarre, ou on vous a dit vraiment Frédéric, voilà.
J'ai eu une carte blanche, ouais, proposée par Alain Lamy qui s'occupe de Navarre de rue. Et donc voilà, en fait, j'ai très peu cherché. Je me suis dit Navarre, Friche, La Boucle, qui était l'invité de l'an passé. Moi qui voulais faire une thématique sur les usines, et ben j'ai la galerie l'espace Navarre pour mettre ce que je veux dedans. Donc c'est génial. C'est,
il y avait quelque chose d'assez naturel, quoi.
Ah oui, complètement. Et puis j'ai jamais été aussi productif pour une exposition que celle-ci. Donc ça va être très varié, ça va être génial.
C'est pas vertigineux quand même, quand tout d'un coup on nous dit vous avez carte blanche? J'imagine que c'est peut-être le rêve de tous les artistes, mais nous, il y a des artistes aussi qui peuvent nous dire moi j'aime bien quand j'ai des contraintes, quand j'ai un peu, puisque c'est dans la contrainte finalement que je trouve ma liberté. Et là tout d'un coup vous, on vous dit allez-y.
Ah, moi ça a été une révélation en fait. C'était génial. si vous voulez, je cogite dessus depuis août 2018. Donc tous les jours, quand je suis en voiture, sous ma douche, en m'endormant, je pense expo, installation. En fait, c'est plutôt une installation, parce que ça va pas être des cadres standards. Ça va être des photos imprimées sur aluminium, fixées à des planches de bois que j'ai vernies, cirées, nettoyées, sur du métal aussi. Il va y avoir des créations que j'ai jamais montrées, des collages d'objets de friche, donc du recyclage, de la récupération, que je fais aussi avec ma fille, qui a 9 ans, Eline, que je remercie. des lampes, une sculpture surprise, et puis d'autres choses dont je ne vais pas parler tout de suite.
Bah, il faut en garder un peu sous le pied pour découvrir justement cette exposition qui sera visible du 17 au 27 juillet dans la galerie Espace Navarre.
Voilà, c'est ça.
C'est sur la place de Navarre. Ouais. Il suffit de s'y promener. Puis autant y passer le jour de méga Navarre de rue.
Ouais, c'est mieux.
Faire. Bah oui, c'est quand même mieux.
Alors, il faut savoir que la galerie sera fermée, donc il faut m'appeler ou appeler l'amicale de Navarre pour prendre rendez-vous. Point très important, cette exposition n'aurait pas eu lieu sans la participation et l'aide financière de l'amicale de Navarre et de l'UIMM, Gaël Lirzin, je le remercie, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie de l'Eure. Voilà.
Très bien.
C'était très important que je le souligne, donc merci de ce petit temps.
On a parlé tout à l'heure d'exposition, on a parlé photographie, mais on a aussi parlé sculpture. Ouais. On a aussi, vous avez parlé de voyages sensoriels aussi. Il y a un côté de matière.
Ouais,
j'ai l'impression
matière,
que ça
texture,
va.
Voilà. Et donc,
ça va au-delà donc, d'une simple exposition.
Vous allez nous faire
entrer dans un univers.
Ah, bah, alors là, oui, c'est un univers très personnel. Que j'ai jamais montré c'est une installation faite un petit peu sur l'idée du cabinet de curiosité. Et puis vous me parliez tout à l'heure de ce qu'on ressent quand je rentre dans les usines, vraiment c'est les souvenirs, parce que je remercie aussi Gilles Leblanc des archives municipales d'Évreux qui m'a ouvert les portes sur des centaines et des centaines d'archives sur les usines. Donc j'ai réalisé beaucoup de photographies, dont des photos de 1905. Donc c'est vrai que quand je vais dans ces usines, je m'imagine vraiment, c'est très fort en fait ce qu'on ressent, parce que quand on connaît ces photos d'époque, c'est à ça qu'on pense quand même.
C'est très présent, leur histoire est très 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 présente. Dans la mémoire, votre mémoire, mais dans la mémoire collective aussi, j'imagine.
Oui, complètement. Bah, c'est une autre époque. C'était d'autres gens, d'autres générations, des vêtements différents. C'était un lieu de rencontre. On y trouvait sa femme ou son mari.
Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous avez été aussi très sensible et la matière et la matière physique, le matériau restant. De l'usine vous a aussi beaucoup influencé. Vous travaillez une photo argentique. Déjà, argentique, c'est déjà une matière en tant que telle.
C'est du grain d'argent.
C'est du grain d'argent. Je trouve que dans les vestiges, parce que c'est quand même vestiges d'une époque révolue, il y a les vestiges, il y a les traces encore matérielles qui restent. Ouais. Vous avez choisi le bois comme support.
Mais c'est vrai que bientôt.
Que un décrochage de l'usine, en fait.
Oui, mais c'est vrai parce que bientôt il y aura plus rien.
Oui.
Et je ramasse des objets singuliers qui veulent rien dire mais qui veulent tout dire aussi. Et je les assemble et j'en fais des choses.
C'est génial. Vous devenez plasticien.
Ouais, c'est vrai. J'avoue.
Gunshot bust like the thunder in a storm. Reload, man off your reload. Carry army, a march on a really rocky road now. Reload, man off your reload. Make the gunshot bust like the thunder in a storm. Reload, reload now, reload. Make the gunshot them bustin' and the yell like the thunder. We don't sell all them off, we take back the tone, yeah. We are back when we know till we know sponsor. Self and men are better, watch out for the one you're missing. No man on the army, if we cross the barrier. We good and wild, but we peaceful warriors. Spread out, we vibes across Serena, India. Generation, I come again, we tell ya. It could be one, it could be two, it could be man, them we love to this. The generation, bar respect is due. Mamba the bum, them up with the baba the bum, this under the bit, and also the bit, and mamma the man, that the neck mirror jumps. So we keep on chatting on, look up on a rocky road we go. And we never back down, never back down, no. Cause man, I feel reload, man, I feel reload.
on steel shotten. Hear the one you're playing, I'm calling, gunning on. I'm gonna seize, take what I wanna take. I rise up in the morning, give thanks, cause I'm awake. No time for dream, make one of them mistake. I'm at the fullest speed, me now go push from the break. Me no afraid, and I might come a phenomenon, I'm a prove right, you know. Me step on the beat, and the misery, I don't know where them I go. Don't ask me why we kidding some wire, we tell them no. I say we hot on the stage like we are power YouTube videos. Them step in the big, big, no topic, but bit of it be long. But I'm a stumble upon the thing, phenomenon, call like a ambition. Give me the camouflage green, come me tip on the road, a mission. And the roots, it can spring with lyrical ammunition.
Man, I can reload, man, I can reload. Make the gunshot bust like the thunder in a storm. Reload, man, I can reload. Carry army, I'm a ton of the rocky road now. Reload, man, I can reload. Make the gunshot bust like the thunder in a storm. Front of his style, cause generation of the riff on drawla. And all of the warriors that me a caller, I'll be spreading to the word above all. And new roads are the be sure we a go set it up. From France to Cambodia, be sure them a go hear it up. Follow the guerrilla and make the place burn up. Generation the base of it turn up. So man up here reload and prepare for the war. You and the world got the cool chicken for us. Them can't test, we sound them can't test. Do we are, remember say we burn hotter than a Havana cigar. We pins up with guns, and we mash up the place with a lyrical bomb. Make the rifles turn to notes, cause a musical revolution we are promote. Reload, man up here reload. Make the gunshot bust like the thunder in a storm. Reload, man up here reload. Carry army, I'm a ton of Billy Rocky Road.
On est nombreux dans le studio aujourd'hui.
C'est ça.
C'était Generation avec le titre Reload. Generation qu'on retrouvera le 16 novembre prochain au Tangram en partenariat avec l'association Solidacteurs dans le cadre du festival Solidact Reggae.
Eh ben, voilà une bonne nouvelle. Nous poursuivons nos échanges et nos rencontres parce que le temps nous presse et nous avions au mois de février été à
Saint-André-de-l'Eure.
Merci de m'aider à la médiathèque de Saint-André-de-l'Eure où nous avons rencontré l'association Les Amis de la Bibliothèque et notamment Daniel qui nous expliquait ce qu'était l'association des Amis de la Bibliothèque.
Je suis Daniel, j'essaie de diriger cette petite association. Le but est d'amener un maximum de personnes à la médiathèque et de faire découvrir autre chose que les livres et entre autres les différents ateliers que nous avons mis en place.
Alors quand vous dites faire découvrir d'autres choses que les livres, ça veut dire que le champ de la littérature, on pourrait dire, est plus large que celui des livres uniquement. Et vous, vous l'entendez comment alors ce champ de la découverte culturelle?
Le but est de faire venir à la médiathèque des personnes qui n'ont pas l'habitude d'y venir, et pour un atelier généalogie, pour un atelier informatique, pour un atelier dessin, pour un atelier tricot aussi, pour les personnes, quelques personnes un peu plus âgées, et qui repartent quelquefois avec un livre. Le but est quand même au final de faire découvrir de la lecture au travers des différents ateliers.
Alors sur les ateliers, ça reste tout de même assez cohérent finalement quand on parle de généalogie. J'imagine que rapidement on va être obligé de se mettre le nez dans des bouquins pour retrouver de la généalogie ou de l'histoire ou des morceaux qui manquent. Ou effectivement comme juste Jean-Luc à côté de moi a l'air de dire, l'informatique également. On parle aussi de cinéma dans des projections proposées et je trouve qu'on est assez proche aussi de cette ambiance de la littérature à travers les propositions. Enfin, il y a des liens quand même à chaque fois qu'on peut trouver.
Absolument, absolument. Tous les 5 semaines, nous avons un atelier, enfin une projection ciné-rétro avec les films des années 60. Maintenant, on est passé aux années 70. Et ça fait venir des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à la médiathèque. Et on passe une bonne soirée entre amis autour d'un vieux film et des actualités de l'époque et des pubs de l'époque. Et une petite ouvreuse, toujours un petit peu déguisée, qui est sympathique comme tout. Ça fait passer un bon moment.
Ah ouais, avec ouvreuse et tout alors. C'est-à-dire qu'il y a au-delà de la projection, il y a toute l'ambiance qui va avec quoi.
Absolument, le but c'est de passer un bon moment et puis voilà.
Moi, j'ai la sensation quand même que cette association, les Amis de la Bibliothèque, on vous a rencontré là une heure avant le début de l'émission. Il y a une notion quand même de convivialité et de partage qui est évidente. Voilà, à peine on vous a rencontré, tout de suite vous nous avez invité à nous installer avec vous, à boire un coup avec vous, à discuter. Enfin, tout de suite les conversations, elles se sont mises en place. J'ai vu d'ailleurs Cécile, au d'un moment, t'es rentrée dans la salle et ça discutait de partout. Il y avait 15 conversations en parallèle. Il y a cette notion, voilà, de convivialité. Convivialité et de partage quand même qui est hyper importante.
Absolument, la convivialité c'est, et le partage bien sûr, et on partage nos passions.
Et on a senti tout de suite que le lien se faisait en fait.
Sans pas de problème.
Et voilà, c'est fluide et hop, on se met en lien avec les autres. Et j'imagine que dans les animations que vous portez, si c'est le même esprit, ça doit très vite accrocher. Très vite.
Généralement, ça accroche rapidement. Bon, il y a des ateliers qui durent depuis quelques années et qui commencent un petit peu à avoir du mal à fonctionner parce que tout le monde s'y est mis. Par exemple, la généalogie, bon, bah, c'est sur Internet. Et bon, bah, arrivé un moment, les gens se débrouillent tout seuls chez eux. Donc, on cherche donc de nouvelles personnes pour éventuellement démarrer leur arbre. Mais les ateliers fonctionnent bien en général. Il faut de la passion, c'est tout.
Alors moi, je voulais revenir sur certains événements en particulier quand même. Parce qu'on voit bien, voilà, toute une programmation assez riche et puis cette envie, ce goût du partage et puis de la rencontre également. Mais moi, je voulais revenir sur des exemples très concrets. Ce soir, par exemple, à la médiathèque de Saint-André, il y a Là, ça chauffe. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises.
Exactement.
Là, qui est une rencontre typiquement autour des questions d'écologie, puis d'avenir, tout simplement.
Absolument, l'environnement.
Quel est le lien, en fait, finalement, avec la médiathèque et avec les Amis de la Bibliothèque? Enfin, pourquoi, au bout d'un moment, ces questions ont été saisies par votre association?
Parce que nous sommes relativement proches, les Amis de la Bibliothèque, d'une autre association qui s'appelle Nous voulons des coquelicots, qui se réunit tous les premiers vendredis du mois devant la mairie. Donc aujourd'hui, on est le premier vendredi du mois. Donc on associe la réunion des coquelicots et du film après. Voilà.
Ce sera quoi, par exemple, le film après?
Là, ça chauffe ce mois-ci.
Après, ah oui, c'est le film Là, ça chauffe. Très bien.
Mais c'est très intéressant parce que le but, c'est de sensibiliser quand même à ce qui se passe en ce moment. Bon, là, cette semaine, ça ne se réchauffe pas trop, mais en général.
Oui, on ne va pas vous croire. Hein.
Voilà.
Sur les rencontres et ateliers, et là je vais me retourner peut-être vers Jean-Luc. Chacun vient proposer des choses, et puis, je me retourne vers Jean-Luc, mais vers Taous aussi pour le coup. Jean-Luc, vous proposez un atelier autour du numérique. Il y a eu un constat qui a été fait de part et d'autre sur cette notion d'accès au numérique, et finalement c'est à travers un projet dans la médiathèque que les choses se sont concrétisées. En quelques mots, Jean-Luc, de quoi parlons-nous?
Oui, bonjour. Le hasard faisant bien les choses, il se trouve que je me suis retrouvé assez rapidement en pré-retraite et que j'ai des capacités, je crois, techniques pour diffuser, transmettre mes connaissances en informatique. Et du coup, j'ai proposé à Daniel, donc le président des Amis de la Bibliothèque, de créer cette activité-là, qui a débuté le 6 novembre. Et tous les 15 jours, toutes les deux semaines, on crée cet atelier informatique qui accueille principalement des personnes plutôt âgées qui sont confrontées à la fracture numérique. Et on essaye de lutter contre cette fracture numérique. Alors, on y va pas à pas, hein. C'est-à-dire qu'actuellement, on travaille plutôt sur la notion de maîtrise de l'ordinateur, maîtrise de la souris, maîtrise de l'écran, bien lire les écrans, et on est plutôt sur des notions de traitement de texte actuellement. On attend un petit peu au niveau de la médiathèque une amélioration en termes de débit informatique pour pouvoir faire un atelier général sur Internet, les messageries, comment se méfier des faux messages, comment être prudent sur Internet, la vigilance au niveau du numérique, mais également comment créer un compte, par exemple son propre compte, pour pouvoir déclarer ses impôts sur Internet, pouvoir se connecter à la sécurité sociale, à Meli.fr, etc., etc. Rechercher de la documentation, rechercher de la généalogie, pourquoi pas. Essayer de développer tout ça. Alors, c'est très progressif. Hein, ça m'oblige, moi, en tant qu'animateur informatique, à faire quand même des efforts de pédagogie, peut-être de ralentir un petit peu le rythme que j'aimerais être un peu plus soutenu, mais je m'adapte aussi au public qui vient fréquenter donc ces ateliers.
Et là, finalement, du coup, Taous, vous, en tant que médiathèque, ça faisait partie aussi de vos questionnements, ces notions autour du numérique.
Alors, on a vu une demande. Hein. Plusieurs personnes nous ont demandé si on pouvait leur donner des cours. Alors, nous, on ne pouvait pas, puisqu'on a déjà, on n'est que deux, hein, deux salariés. Bon, on a les bénévoles. Et du coup, quand Jean-Luc s'est proposé, on a sauté sur l'occasion, parce qu'on voulait vraiment créer un atelier informatique depuis longtemps, mais on attendait d'avoir la personne capable de transmettre...
Mais j'ai l'impression que ça va au-delà de des ressources numériques, des ressources bibliographiques, médias. Ça va au-delà de ça, finalement.
Ça va au-delà de ça, puisqu'on est quand même... c'est vrai qu'on vient à la médiathèque. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on vient à la médiathèque. Alors, parfois, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Mais souvent, les gens, par exemple, pour les horaires de car, ils viennent nous voir. On a eu plusieurs demandes, quoi. Ils viennent, ils rentrent à la médiathèque. C'est vrai que c'est... un lieu ouvert et convivial, comme on disait tout à l'heure.
Et qui fait du lien, du coup.
Et qui fait du lien.
Du lien
et du lien social, oui. Il y a une dame qui vient lire son journal, elle a 90 ans, et elle vient tous les jours, lire le journal.
J'imagine que la question, voilà, elle est pas forcément autour de la lecture du journal, mais elle est bien autour de se retrouver dans un espace.
Exactement.
Et partager avec,
voilà,
avec d'autres personnes. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein. C'est un lieu de vie avant d'être un lieu d'emprunt d'ouvrage.
C'est ça.
Comme bien souvent les médiathèques dans toutes nos villes, c'est comme ça qu'on dit. Nous arrivons vers la fin de notre émission Best-of. C'est cool ça, des Best-of. Nathalie, sur quoi nous quittons ?
On ne déroge pas à notre règle de fin d'émission avec le film choisi. Eh bien, ce sera Wild Rose. C'est un film qui sort le 17 juillet, un film britannique. Et là, on va dans la vie de Roselyn Harland, qui est une jeune écossaise originaire de Glasgow, mère célibataire de deux enfants et qui jongle entre le travail et sa famille. Mais elle a un rêve, c'est devenir une chanteuse country. Et lorsque l'opportunité s'offre à elle d'aller à Nashville, sa vie va totalement changer. Donc, belle histoire de femme et de parcours proposé à aller voir dans les salles à partir du 17 juillet.
Rendez-vous premier vendredi du mois de septembre.
Le 6, je crois.
Premier vendredi du mois de septembre.
On te croit sur parole, Nat.
On aura le temps.
Je dirais le 6.
On aura le temps de retrouver quelle date ça tombe.
Et on vous souhaite un bel été. Bel été!
You're gonna miss me.
You keep it for stances.
You're gonna be the next Dolly Parton!
Your lordship, Miss Harlan has put her childish ways behind her. Her children are living with her once again.
Do you miss me?
She is a promising young country singer.
I'm trying to get to Nashville.
You better mind your tad doesn't go off when you're going through security.
I'm trying to be a country singer.
Nobody wants to see a convicted criminal up there.
Johnny Cash is a convicted criminal, you ball bag. Country music.
Because it's three chords and the truth.
It just gets whatever's in there out.
I should have been born in America. I'm an American.
Just thinking about your kids. You cast them off when you get a better offer.
This is me trying to make something of myself. And sure, look, that's a good thing for them.
No letting them down. That would be a good thing for them. Had to find
my way. There's so much I can't undo.
I wanted you to take responsibility. But you know that I had I never meant to take away your own.
You've got a voice. Make you've got something to say.
But you know that I had to go.